you know, it's the boy Dash all the way from Grenada and they tune into C-Cut 90.3 FM.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette édition, un immigrant français, adepte des grands espaces, pose ses valises à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. Il a quand même dû se faire l'oreille.
Quand on me dit que ça prend une blade de jigsaw pour couper une sheet de plywood, c'est un petit peu compliqué à comprendre au tout début.
Le train Hyperloop revient de façon cyclique dans l'actualité. Eh bien là, un consortium international veut en construire un qui va relier Edmonton à Calgary en quelques minutes, un projet qui pourrait être lancé dès 2027.
Ça consiste à avoir des véhicules de la taille d'un wagon de train ou d'un bus qui circulent dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air. Et donc pour permettre aux véhicules d'atteindre des vitesses similaires à l'avion avec... Aujourd'hui, notre technologie pour atteindre ces vitesses-là.
Une enseignante de l'Est du Canada se voit attribuer l'une des plus hautes distinctions françaises, l'Ordre des Palmes académiques.
On a voulu à la fois célébrer le profil universitaire, mais aussi l'investissement au sein de la communauté francophone de Nouvelle-Écosse. Il est important d'encourager cette maîtrise du français en reconnaissant celles et ceux qui, sur le terrain au quotidien, y consacrent leur vie. Voilà.
Et on vous parle de nos rencontres radiophoniques des prochaines semaines. Bienvenue à Point de vue. Alors, notre chère ville d'Edmonton caresse un projet Hyperloop de train sous vide. Sa première phase pourrait être lancée dès 2027. S'il se réalise, le trajet entre Edmonton et Calgary pourrait ne prendre que quelques minutes en wagon-train ou avec ce train sous vide, au lieu de prendre 3 heures en voiture, imaginez. Mais c'est pas si farfelu, il y a des gens qui investissent dans ce type de projet de façon cyclique. Cette fois, c'est la compagnie Transpod qui est responsable du projet Hyperloop. La compagnie a même obtenu un financement de 688 millions de dollars canadiens de la part des compagnies Broughton Capital Group et China East Resources Import and Export Company. Cette somme doit servir à la construction de la première phase du projet qui doit être lancé donc en 2027. Le train sous vide peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h. Plusieurs grandes villes s'y intéressent et au premier chef, lui n'est pas une ville, mais celui qui a mis ce projet sur les rails de nouveau, l'ingénieur de SpaceX et Tesla, Elon Musk. Le directeur général et cofondateur de la compagnie Transpod, Sébastien Gendron, s'est livré au micro de Vincent Savard en Alberta.
Mais en fait, on voit en fait un changement, d'attitude de certaines institutions financières à vouloir innover ou en tout cas investir sur des projets innovants comme celui porté par Transpod. Et donc Broughton Capital fournit l'ensemble du financement en provenance d'Angleterre. C'est une firme financière anglaise. Sayeco en fait fournit une garantie financière sur une partie du montant. Donc Sayeco qui est une société d'import-export chinoise et vient fournir un backstop en fait sur les fonds qui sont fournis par Broughton Capital. Et on a structuré le projet également de telle façon où le risque est géré avec plusieurs niveaux d'investissement, etc. Donc ça n'a pas été facile, mais on est très content d'avoir pu sécuriser ce financement avec eux.
Et j'imagine que cet argent sert seulement de couvrir une partie des coûts.
Exactement, cet argent a pour objectif de construire juste la première phase du projet. Qui consiste en fait à la connexion de l'aéroport de Edmonton. On va se servir de ce segment-là pour certifier la technologie. Et une fois que c'est certifié, ensuite, on continue jusqu'à Calgary. Donc en fait, Broughton Capital et Sayeco ne sont pas juste intéressés par cette connexion aéroportuaire, mais vraiment par la totalité du corridor. En fait, ils achètent un petit peu ils achètent leur siège aujourd'hui pour pouvoir financer la totalité du projet. Et en dollars canadiens, on parle d'un projet à 22 milliards.
Ensuite, M. Sébastien Gendron, vous voulez faire les premiers tests du trajet d'essai pour et entamer la construction de la ligne Calgary-Edmonton pour 2027. Croyez-vous que ce soit un objectif qui est réalisable?
Bien, à date, aujourd'hui, des retours qu'on a eus des entreprises de construction et de notre développement, c'est faisable. Maintenant, je ne veux pas faire de fausses promesses. Hein. On ne connaît pas tout, on va sûrement avoir des problèmes. Là, sur ce premier segment, notre objectif, c'est de commencer la construction à l'été 2023. On a eu des premiers retours nous disant qu'il va falloir entre 18 et 24 mois pour construire ce premier segment. Donc là, on est sur 2025. Ensuite, deux ans d'essai, 2025-2027. Une certification potentielle, donc 2027. Et après on peut continuer sur Calgary.
J'imagine que vous avez été en contact avec plusieurs personnes de Calgary ainsi que d'Edmonton.
Écoutez, pour le moment, on a l'ensemble des institutions, que ce soit la ville, que ce soit même Edmonton Global. On travaille aussi avec The Building Trades of Alberta, le ministère des Transports, Alberta Transportation. Il y a aussi, on a commencé à contacter quelques Premières Nations. Et je dois dire que tout le monde est plutôt bienveillant sur ce projet-là. Je suis plutôt agréablement surpris, les étoiles semblent alignées.
Vous avez un diplôme en ingénierie aérospatiale, vous avez travaillé avec des compagnies aériennes comme Bombardier. Alors, quels sont les avantages et les désavantages de l'Hyperloop si l'on compare avec l'avion en termes environnementaux?
L'avantage, en fait, énorme, c'est qu'on a un système qui est 100% électrique. Sur l'infrastructure, là, entre Calgary et Edmonton, on va pouvoir construire 300 km de panneaux solaires et générer aussi, voilà, de l'électricité à partir d'énergie renouvelable.
J'ai entendu dire que c'était par contre plus énergivore. Est-ce que c'est vrai?
Non, sur la consommation énergétique, aujourd'hui, on est sur la même consommation qu'un train à grande vitesse.
Est-ce qu'il y a des risques à la santé qui ont été évalués par rapport à ça?
On n'est pas en train de concevoir un canon électromagnétique. Donc, les accélérations et les décélérations de ce système-là sont similaires à celles du métro, quoi. Ou du light rail à Edmonton. Mm-hmm. Et donc, il nous faut plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres pour atteindre la vitesse maximum. Et une fois qu'on est à une vitesse de croisière, c'est un peu la même sensation que quand on est dans un avion. Donc, ce sera la même expérience passager. Après, effectivement, on est dans un environnement à faible pression dans le tube. Mais on a aussi cet avantage d'être au sol. Donc, s'il y a un accident, on peut repressuriser le tube en fait en 15 secondes. C'est très très rapide. C'est beaucoup plus rapide que dans un avion. Parce qu'un avion, si vous avez un accident de dépressurisation et que vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, le temps de redescendre, souvent ça se termine malheureusement avec un accident. Nous, de notre côté, voilà, on peut repressuriser beaucoup plus rapidement et permettre aux gens donc du coup de respirer dans le tube s'il faut évacuer et ensuite d'évacuer le tube.
Merci beaucoup, Sébastien Gendron, directeur général et cofondateur de Transpod.
Je vous en prie. Merci beaucoup.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Judy est l'une de nos journalistes dans l'est du pays. Judy, avec qui on s'entretiendra au cours des prochaines semaines. Elle qui va nous quitter bientôt, malheureusement pour nous, et qui va aussi faire de la peine au réseau des quatre radios avec lesquelles nous travaillons en Atlantique, comme avec Sébastien Beltran, posté à Moncton, et qui est arrivé, lui, au pays. Lui, il ne nous quitte pas. Il vient d'arriver. Il est arrivé au pays il y a quelques mois à peine en direction de France avec toute sa famille. Imaginez quelle transition. Lui qui est passé du métier de vidéojournaliste à journaliste radio. Il travaille avec nous depuis quelques mois seulement. On fera une pause en sa compagnie. On va aussi passer quelques minutes avec notre collaborateur de longue date, Thomas Etier, qui est avec l'initiative de journalisme local depuis quelque temps et qui passe à autre chose, à une autre étape de sa carrière professionnelle, là-bas, tout en haut du pays. Thomas, qui est dans les territoires du Nord-Ouest et qui y reste pour travailler pour le journal L'Aquilon, mais qui a de nombreux points d'entrée sur l'actualité dans ces territoires, il va nous parler de ce qu'il vit, fait, voit et entend depuis toutes ces années passées comme francophone en situation minoritaire dans les territoires du Nord-Ouest. Il sera donc pour un court moment notre guide de franco-actualité, culture et tourisme. Thomas, qui a de nombreux intérêts, lui qui a étudié non seulement en journalisme, mais aussi en marketing et en psychosociologie. Et puis, notre très productive journaliste Hélène Lequitte va aussi faire une transition professionnelle. Vous savez que les équipes radio de l'Initiative de journalisme local ont la bougeotte comme dans tous les milieux professionnels ces temps-ci, il semble. On ne leur en veut pas, mais on leur met le grappin dessus avant qu'ils ne s'en aillent. Hélène Lequitte, qui est en Alberta, à Edmonton, elle couvre aussi la région de Rivière-la-Paix. On fera le bilan de l'année qu'elle a passée avec nous et dans cette communauté albertaine. Plus de 10 ans d'expérience en journalisme, c'est ce qu'elle a sous la cravate. Hélène Lequitte a aussi collaboré avec ici Radio-Canada à Vancouver et le quotidien Le Devoir. Et puis, on fera aussi un petit tour en bord de mer. On va se gâter et rêver un peu. Avec Pénélope Clermont, qui a choisi de prendre racine dans le minuscule village de Tête-à-la-Baleine sur la basse côte nord au Québec. Comment c'est faire du journalisme dans un village d'à peine 150 habitants? Ce sera l'une des questions qu'on va lui poser. Un rendez-vous avec l'actualité locale, mais aussi avec un certain art de vivre qui va nous permettre de voir comment est-ce que nos journalistes s'intègrent à des communautés aux profils très différents. C'est donc un rendez-vous. Parlant de gens qui ont des fourmis dans les jambes, il y a Stéphane Sogne, qui est né en France, en fait au cœur des Alpes françaises. Il a beaucoup voyagé, il a habité évidemment en France puisqu'il y est né, mais a aussi travaillé en Suisse avant de venir au Canada. Sa migration au Canada semblait tracée d'avance depuis tout jeune. Il répétait à sa mère qu'il aimerait aller vivre à Sydney en Australie. Drôle d'idée, non? Eh bien, il a atterri non loin de la même ville, mais dans une province canadienne. Et puis les années passent, ça fait déjà 12 ans qu'il est à Chéticamp, Nouvelle-Écosse. Il est d'abord passé par Montréal, comme tant d'autres Français, et c'est à Rimouski, au Québec, qu'on lui a parlé de Chéticamp et des Acadiens. Il n'en fallait pas plus pour le séduire. 12 ans après son arrivée à Chéticamp, Stéphane Sogne ne regrette en rien sa décision, n'a jamais regardé derrière. Il adore la cuisine acadienne, la nature, la mer, le homard et la voile, ça tombe bien. Il travaille actuellement comme agent de développement scolaire communautaire à l'école NDA de Chéticamp. Il est au micro de notre journaliste Daniel Aucoin pour parler de son intégration à la communauté acadienne de Chéticamp et de son arrivée, bien sûr, en Nouvelle-Écosse.
Dans les choses qui m'ont beaucoup surpris ou qui ont été un peu plus dures à s'adapter, il y avait définitivement la langue qui était quelque chose, parce que c'est ça, le français acadien est assez différent du français de France, puis même par région, parce qu'on parle l'acadien, mais l'acadien de la région de Clare ou l'acadien de la région de Chéticamp, la langue était un peu plus difficile. Puis il y a l'anglais qui est omniprésent, c'est-à-dire que tout le monde qui parle français est de toute manière bilingue. Ça fait que ça passe du français à l'anglais instantanément. Donc ça, c'est un peu plus dur. Et puis, ici, le monde a vraiment comme le cœur sur la main, a pas la même vision qu'en France. En France, quand je dis « je veux créer une entreprise », la plupart des gens disent « oulala, mais t'es fou, c'est beaucoup de soucis, ça va être très compliqué, etc. » Ici, la première chose que le monde m'a dit, c'est « oh, c'est génial, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, c'est vraiment une autre vue. C'est un peu le côté rêve américain, je trouve. Tout est possible et tout le monde veut t'aider à faire quelque chose.
On sait que la région de Chéticamp, on est reconnu pour nos gros vents du sud-est. Ça a été quoi ta première expérience de nos fameux suèves?
Alors, quand je suis arrivé ici, au début, je travaillais un petit peu avec Heather Davis, qui avait fait une entreprise d'éoliennes. On essayait des éoliennes. Et quand j'ai entendu parler des grands vents, ma première réaction, c'était de dire « Ah oui, mais moi, je connais le vent, j'ai fait de la voile, j'ai vu les gros vents forts dans le sud de la France, le Mistral, la Tramontane, etc. » Ça, c'était avant de le voir. Et la première fois que j'ai vu un gros suette à passer 170-180 km/h, Là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais la maison bouge, c'est pas normal. Et elle m'a dit, la maison est debout depuis 100 ans, elle va pas s'en aller nulle part. Mais c'est, oui, c'est vraiment, j'adore le vent. Et vraiment, le phénomène des Suettes me passionne. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui est, c'est la force de la nature dans toute sa splendeur. Là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Est-ce que l'hiver à Chétiquan, c'est différent de l'hiver en France?
Alors moi, je viens d'une région de montagne. Ça fait que j'ai grandi dans le froid et la neige. Ça fait que j'ai pas eu trop de mal à m'adapter au froid et à la neige. Par contre, c'est plus l'isolement. C'est-à-dire qu'ici, tout est loin. Et dès qu'il y a de la neige ou des tempêtes, c'est loin assez que tout est inaccessible. C'est-à-dire que s'il y a une journée de tempête, on ne se rend pas à Sydney ou on ne se rend pas à Halifax.
Comment tu trouves la cuisine acadienne chez nous?
J'adore le... Il y a des plats que j'adore vraiment. Je suis devenu très acadianisé. Par exemple, je mets de la mélasse sur mon pâté à la viande. Ça, j'ai entendu que c'était plus aux moines qui faisaient ça. Mais non, j'adore la cuisine. J'ai toujours aimé la cuisine et j'adore la gastronomie acadienne. Bien sûr, le homard aussi. On a accès à des produits fantastiques. On a accès à du poisson de première qualité. On a accès... Ça fait que ouais, j'aime beaucoup, je me régale beaucoup ici.
Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter aux mots acadiens?
Pas tellement, parce que je suis assez... je pense que ça vient du fait que ma mère était d'origine autrichienne, mon père d'origine italienne. J'ai toujours été assez flexible, j'ai habité en Suisse. Ça fait que j'ai l'habitude d'avoir des mots différents. Mais c'est vrai qu'au début, il y a certaines phrases avec de l'anglais... qui sont un peu hardcore. Là. Quand on me dit « ça prend une blade de jigsaw pour couper une sheet de plywood », c'est un petit peu compliqué à comprendre au tout début.
Ça a été quoi le plus difficile à s'adapter?
Ici, on est des francophones, mais vraiment des francophones d'Amérique du Nord, avec une culture beaucoup plus anglo-saxonne et américaine que ce qui se passe au Québec. Donc le Québec est plus français dans le côté État français. Et puis ici, c'est la langue est française, mais la culture est beaucoup plus anglo-saxonne.
Qu'est-ce qui te manque le plus?
La gastronomie, la culture de la gastronomie, c'est-à-dire le côté de se vraiment faire la cuisine. Pas seulement faire à manger pour se nourrir vite, vite, mais vraiment le fait d'apprécier les ingrédients qu'on met dedans, le côté passer du temps à table, apprécier la nourriture, manger moins, mais manger vraiment de très bonne qualité ou mieux, etc.
Tu regrettes pas ta décision de venir en Acadie?
Non, pas du tout, non. Il y a beaucoup d'amis qui me demandent si je pense retourner en Europe un jour. Et je crois pas, parce qu'il y a quand même beaucoup plus. C'est sûr qu'il y a des choses qui me manquent, ma famille, mes amis, tout ça. Oui, j'ai trouvé beaucoup plus de choses que j'aime ici. Le côté aussi, le côté liberté, le côté on est au Canada, on a de la place, on a accès, on vit littéralement dans la nature, on voit des orignaux traverser notre jardin. Ça fait que ouais, j'aime vraiment beaucoup trop ça ici pour retourner en Europe. Après, je ne dis pas qu'un jour, je n'irai pas faire la même chose dans un autre pays, peut-être découvrir une autre culture, un autre pays, peut-être dans un endroit plus chaud éventuellement.
Les montagnes du Cap-Breton, comparées aux montagnes en France, c'est quoi?
Ah, ça, c'est intéressant. Alors moi, j'ai grandi dans une station de ski qui s'appelle Val Thorens, dans les Alpes, qui est le plus grand domaine skiable du monde. Ça fait qu'on a à peu près 3000 km de pistes de ski différents. C'est absolument gigantesque. Ça va d'une vallée à une autre vallée à une autre vallée. Et les montagnes montent jusqu'à 3800 mètres, là où j'ai grandi, et le Mont Blanc, qui est à 4800 mètres d'altitude et à environ une heure de chez moi. Alors qu'ici, la butte aux Échourots, à peu près 300 mètres. Donc on n'est pas tout à fait dans le même esprit de montagne. Par contre, le climat est le même, le climat est très très proche. Et j'aime beaucoup Moi, j'ai toujours aimé la neige et puis les activités d'hiver. Donc ici, je retrouve vraiment ça. Et avec en plus le côté mer, c'est ça. Moi, j'aime la mer et j'aime la montagne. Et ici, j'ai les deux. C'est ça qui est fantastique. Je fais de la voile. J'ai fait de la voile pendant très, très longtemps. Je suis moniteur de voile. J'ai été entraîneur d'équipes sportives en voile. J'ai fait des compétitions au niveau pré-olympique. en France. Alors, quand je suis arrivé ici, en habitant finalement sur la mer, j'étais assez content de pouvoir m'acheter un bateau. Donc, j'ai acheté un voilier. Et à un moment donné, le voilier était un peu trop petit. Je l'ai acheté avec mon ami Scott au coin. Et on a décidé d'acheter un voilier un peu plus grand. Donc, on a acheté un autre voilier un peu plus grand avec Robert Devaux. Et là, j'ai acheté encore un troisième petit voilier. Donc maintenant, j'ai beaucoup de voiliers et il faudrait que je me débarrasse de quelques voiliers. Mais ouais, je fais beaucoup de voiles et j'adore ça. On va aux îles La Madeleine, qui est aussi un petit paradis. Là, c'est absolument fantastique.
Alors, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très, très intéressant. Et on va te souhaiter comme ça un bon séjour parmi nous. Ça fait quand même plusieurs années que tu es ici.
Oui, ça va faire la 12e année. Là, ouais. Merci beaucoup, Daniel.
Merci.
L'enseignante canadienne Sophie Beaulé a eu toute une surprise récemment. Elle a été faite chevalière de l'Ordre des Palmes académiques. Oui, l'Ordre des Palmes académiques est le plus ancien ordre honorifique civil de France et l'un des plus prestigieux. Il vise à reconnaître les membres éminents de la communauté éducative qui contribuent au rayonnement de la langue française et à l'expansion de la culture française dans le monde. Le consul général de France à Moncton, Johan Schitterer, lui a remis son insigne en main propre lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Université St. Mary's d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. L'enseignante a été faite chevalier de l'Ordre des Palmes, en fait, par décret du premier ministre français lui-même, pour reconnaître sa contribution et pour son investissement dans l'éducation en français. Le consul général de France à Moncton a rendu hommage au parcours exemplaire de Sophie Beaulé, un témoignage recueilli par notre journaliste Sébastien Beltran, qui nous fait d'abord entendre les commentaires du consul général de France à Moncton.
Alors, les palmes académiques, c'est vraiment l'une des plus anciennes et plus prestigieuses décorations accordées officiellement par la France dans le monde. Elles ont été créées par décret impérial de 1808, donc c'était une idée de l'empereur Napoléon. Ensuite, elles ont été institutionnalisées en France à partir de 1955. L'Ordre des Palmes académiques a été créé cette année-là et elle vise à distinguer, honorer les mérites des membres actifs de la communauté éducative, les personnalités éminentes qui contribuent à l'expansion de la langue, de la culture académique française, en France historiquement bien entendu au départ, mais aussi maintenant dans le monde. Les palmes académiques sont remises à celles et ceux qui font la promotion de la langue et de la culture française dans les universités, parfois même les écoles, puisque ces palmes académiques qui initialement étaient accordées au corps universitaire, maintenant ont été élargies à l'ensemble de la communauté académique.
L'Ordre des Palmes académiques a pour vocation d'encourager les personnes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel ou à l'éducation. Le parcours exemplaire de Mme Beaulé illustre parfaitement cet engagement dans la durée au profit de la communauté. Johan Schitterer revient sur cet engagement d'une vie.
Sophie Beaulé a été distinguée aujourd'hui parce que c'est une diplômée de l'université McGill, donc elle a un doctorat en littérature française et depuis l'obtention de son doctorat, elle n'a eu de cesse de promouvoir la langue française sous toutes ses formes dans les différents établissements qu'elle a fréquentés. Ici, en Nouvelle-Écosse, elle est depuis 2000 professeure de français à l'université St. Mary's University, si vous permettez l'anglicisme. Et dans le cadre de ses fonctions, bien entendu, elle a contribué à l'enseignement, la promotion de la langue française, de ses cultures, y compris, je l'ai appris en préparant mon discours d'aujourd'hui, dans le domaine de la science-fiction, qui est éminemment intéressant. Et là, en particulier, la science-fiction francophone canadienne. C'est un domaine exceptionnellement intéressant. On a eu l'occasion d'échanger. Alors, par ailleurs, elle a, au-delà de ses fonctions d'enseignant, vous allez me dire, il y a beaucoup d'enseignants dans le monde qui s'expriment en langue française, elle a eu aussi des fonctions extrêmement importantes pour la diffusion de la langue et de la culture française. Je dis diffusion plutôt que protection, soyons positifs. Elle a eu des fonctions éminentes au sein de l'Alliance française d'Halifax, qui était une très vieille maison qui a plus de 115 ans maintenant, et dont justement l'objectif est la promotion de la langue et de la culture française. Elle a été vice-présidente d'ailleurs de cette Alliance française. entre 2016 et 2018. Elle a aussi eu, à l'occasion de son passage à l'Alliance française, eh bien, toute une série d'initiatives, notamment d'activités francophones à destination des étudiants. Il est important que les étudiants, notamment anglophones, bien sûr, soient sensibilisés à la langue française et aient envie de l'apprendre pour mieux la diffuser. Et par ailleurs, elle a notamment animé un club de lecture, elle a organisé le Salon du livre de Dartmouth, que vous connaissez peut-être. Elle a sélectionné pour cela des auteurs invités et organisé une journée de français pour l'avenir, qui sont particulièrement, ces événements, appréciés par la communauté francophone locale. Donc pour toutes ces raisons, on a voulu à la fois célébrer le profil universitaire, mais aussi l'investissement au sein de la communauté francophone de Nouvelle-Écosse. Comme vous le disiez, c'est un Français ici qui est minoritaire. La Nouvelle-Écosse, l'Acadie historique, a été fondée ici en 1603-1604. Il y a eu une déperdition de cette langue française, mais elle persiste dans certaines communautés. Et pour la France, l'ambassade, le consulat général que je représente ici dans les quatre provinces atlantiques, est important d'encourager cette maîtrise du français en reconnaissant celles et ceux qui, sur le terrain, au quotidien, y consacrent leur vie. Voilà.
Madame Sophie Bollet porte un noble visage. Ses yeux étudient, guettent, méditent. Et lorsqu'elle sourit, ils s'éclairent. La voix douce module les mots avec distinction à travers une majestueuse bienveillance. Lorsqu'on lui demande comment elle se sent après avoir obtenu les honneurs, voici sa réponse.
Oh mon Dieu, c'est un grand honneur. Je n'aurais jamais pensé recevoir, être nommée chevalier dans l'ordre des palmes académiques, j'avoue. Jamais je n'aurais pensé à ça. Alors c'est vraiment un très grand honneur. C'est ça. Les mots me manquent. C'est un grand, très grand honneur. Je suis très émue.
Émue, Sophie raconte sa passion pour la science-fiction, son engagement auprès de l'Alliance française et évoque son amour de la langue française dans un environnement linguistique minoritaire. Avant de quitter l'entrevue et de répondre aux sollicitations des invités, dont celle de Colton Leblanc, ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, Sophie nous confie vouloir s'impliquer de nouveau dans le milieu associatif dont elle a dû s'éloigner momentanément par manque de temps. Au regard de son expérience, nul doute que la communauté francophone pourra compter sur l'énergie de cette femme discrète mais ô combien efficace pour instruire une génération souvent en quête d'identité.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous déjà à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada. Rendez-vous sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous le savez, on est aussi branché sur Twitter @CanadaLJI, CanadaLJI. Puis écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes balado préférées, mais aussi sur notre site Internet, bien évidemment. Et on remercie nos journalistes Daniel Aucoin, Sébastien Beltran et Vincent Savard, et bien sûr leurs invités. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique et à notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. À bientôt.
Sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI.
90.3 FM.
Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Boris Chassan qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, jeunesse plurielle, faune et violoneux, on danse non pas avec les loups, mais avec les bisons qui sont ravis d'être encore là après avoir été menacés d'extinction. Hélène Lequit va nous en parler. 8 étudiants passent leur semaine de relâche non pas sur une plage du Mexique, de la Floride ou à dévaler des pentes de ski, mais dans les territoires du Nord-Ouest, dans un centre d'accueil pour jeunes de Yellowknife.
J'ai vraiment été comme confrontée à des histoires puis des situations auxquelles j'avais jamais été confrontée avant.
Il est madelino et acadien dans son cœur. Bertrand Deraspe aime autant son violon que de partir pêcher en mer.
La musique a eu beaucoup d'importance pour moi, mais la mer aussi. Si je partais en tournée, je m'ennuyais de la mer, mais j'ai toujours continué quand même à faire de la musique.
Et la Nouvelle-Écosse ouvre ses portes aux jeunes étudiants étrangers, avides d'une expérience nouvelle.
Et il y a quelque chose de presque thérapeutique ici en Nouvelle-Écosse. Les gens sont tellement sympathiques, sont tellement accueillants, sont tellement chaleureux. Pour eux, c'est toute une découverte d'être dans des écoles en Nouvelle-Écosse. Ça ne correspond pas du tout au système de leur pays. Après, pour les familles d'accueil, c'est un voyage.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Neuf élèves du Collège Sainte-Anne de Montréal ont profité de la réouverture des frontières au territoire du Nord-Ouest pour découvrir les territoires du Nord et prêter main-forte au centre d'accueil pour jeunes Homebase de Yellowknife. Ces Montréalais participent au projet Défi Monde, un programme qui a été mis en place pour enrichir leur culture personnelle, élargir leur ouverture au monde, pour voyager, s'investir dans le mieux-être d'autrui et suivre la voie du citoyen engagé, précise le Collège Sainte-Anne, auquel ces jeunes sont affiliés. Ces élèves de 5e secondaire ont consacré toute leur semaine de relâche à rénover le centre d'accueil pour jeunes Homebase et bien sûr à échanger avec de jeunes adultes des collectivités du Nord et s'exposer à des réalités bien différentes des leurs. D'autres élèves de leur école se sont rendus quant à eux à Meraki en Colombie-Britannique et un autre groupe aux îles de la Madeleine. Alors notre journaliste Thomas Itier a rencontré deux d'entre eux, Alexandra Tarnowski et Yan Yao Alex Lee.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous raconter un peu ce que vous venez faire dans le Grand Nord canadien pendant votre semaine de relâche?
Dans le fond, on est un groupe de 8 étudiants puis une coach qui viennent faire un projet avec le Homebase ici à Yellowknife. On vient pour... On a réaménagé 3 de leurs pièces pour les rendre plus comme confortables et... chaleureuses pour qu'ils puissent comme plus les utiliser, parce que les personnes qui travaillaient là-bas nous disaient qu'ils étaient vraiment pas souvent utilisés, puis que c'était des grands espaces, qu'ils voulaient que ça soit plus des espaces communs.
Dans quel contexte est-ce que vous venez ici?
Dans le fond, nous deux, on est des étudiants du programme Défi Monde, et depuis notre secondaire 1, on était dans la même classe, on est dans une classe d'environ 36 personnes. On a travaillé 5 ans pour être en secondaire 5, et au secondaire 5, on est séparés en 4. Chacun de ces 4 équipes, on va dire, ils ont tous un coach. Et ils vont aller en projet intégrateur. Et dans le fond, c'est nous qui vont choisir l'endroit, le pays dans lequel on va faire notre projet. Pour nous, on avait, dans le fond, choisi le Yellowknife, mm-hmm. parce qu'il y a une grande partie de ça, c'était en lien avec la pandémie, la COVID-19, parce oui. que... Dans les années passées, les programmes défis mondiaux, on va dire, c'est ça qu'on les appelle, ils sont toujours allés dans des pays plus loin, on veut dire, comme en Afrique, en Asie, des pays plus...
Sur d'autres continents, là.
D'autres ouais. continents, il y avait, ouais, plus dans, des pays qui sont peut-être... J'étais payé plus loin.
Plusieurs personnes qui arrivent de Montréal, ils avaient une image qui correspondait pas nécessairement à ce qu'ils voient. Là. Okay, comment est-ce que vous trouvez Yellowknife? Est-ce que vous êtes dépaysé?
Le Canada, c'est un gros pays. Alors, quand on vient à Yellowknife, c'est quand même très différent qu'à Montréal.
En fait, c'est une des raisons qu'on a choisi Yellowknife, parce que à cause de la pandémie, ils ont dit qu'il fallait rester au Canada, puis on a trouvé que probablement à Yellowknife, on serait le plus dépaysé.
Mm-hmm.
Comparé à comme Vancouver, on peut quand même être dépaysé, mais c'est quand même une grande ville et tout. Donc on a trouvé que ici, surtout avec les aurores boréales, et comme personne dans notre équipe n'était jamais venu ici. Donc c'est une des raisons qu'on a choisi ici.
La mission comme telle? Comment ça s'est passé?
Notre mission pour notre projet?
Oui, tout ce qui s'est... Le temps que vous avez passé là, au centre d'accueil.
Une des choses que le programme veut nous comme, faire vivre, c'est l'ouverture à l'autre. Donc ça, c'était une de nos plus grandes choses, c'est aller à la rencontre de l'autre, puis de vraiment apprendre plus sur des situations qu'on connaît moins et vraiment essayer d'avoir comme une ouverture d'esprit puis être un peu sorti de notre zone de confort. Donc, on a définitivement... Bien, moi, j'ai définitivement vécu ça.
De puis quelle aussi... manière? Dans vos échanges avec les...
Oui, bien, il y a aussi un gros volet de notre projet, c'est qu'il faut faire un reportage et un documentaire. Puis, bien, ça, c'est la partie sur laquelle on est évalué. Donc, on a fait quelques entrevues avec les jeunes puis avec les personnes qui travaillent au centre d'accueil. Puis ça, ça a été vraiment touchant, puis je pense que c'est où j'ai fait le plus d'apprentissage dans ce voyage. J'ai vraiment été comme confrontée à des histoires puis des situations auxquelles j'avais jamais été confrontée avant. Puis, notre mission, c'était aussi peut-être juste d'amener du bien, tu sais, faire quelque chose qu'eux, ils ont sincèrement besoin de. Quand on les a contactés, on leur a pas dit « Ah, oh, on va venir faire ce projet-là », on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Donc, je pense qu'une de nos missions, c'était vraiment de comme, combler un besoin, vraiment, au lieu de juste dire « Ah, oh, moi, je sais qu'est-ce que vous avez de besoin, puis... »
Ben, qu'est-ce que vous avez appris, oui? Est-ce que vous aviez eu l'occasion auparavant d'avoir des échanges directs comme ça?
Pour moi, dans le fond, à travers les 5 années dans le programme Défi Monde, on a quand même beaucoup ouvert une ouverture d'esprit. On avait quand même une ouverture d'esprit qu'on était enseigné.
Mm-hmm.
Et je veux pas dire qu'on connaît les situations, mais on a bien fait quelques recherches sur soit les personnes au centre d'accueil ou encore au home base ou encore les foster homes en général. On a déjà entendu qu'il y a une grande parfois ils sont là pour diverses raisons.
Tout à fait, oui.
Et ils sont toujours des raisons. Je sais pas, on a été enseigné en défilement de jamais genre « Ah, ils sont ici parce qu'ils prennent la drogue, là. Ce sont des mauvaises personnes. » On n'a jamais pensé ça. Je ne vais pas dire complètement à cause de notre programme, mais oui, en quelque sorte, on a été enseigné de ne pas
penser ça. On veut sortir des stéréotypes.
Exactement.
Ça devait être extrêmement intéressant. Vos cours sont, j'imagine, en grande partie théoriques. Ben, de parler, de discuter, d'échanger directement dans le Grand Nord canadien.
Oui, il y a bien sûr des cours théoriques, mais on a aussi quelques expériences peut-être juste à Montréal. On a fait du bénévolat. On est parti à la découverte, dans le fond. Et ici, encore une fois, ça nous a prouvé que ce qu'on a été enseigné, c'est vraiment genre important. Parce que, je ne sais pas, j'ai pas la difficulté à expliquer, mais c'est comme si on était... expliquer que la réalité peut être différente et la réalité pour certaines personnes, c'est difficile et qu'il faut leur comprendre.
Mm-hmm.
Mais après avoir parlé aux jeunes adultes, aux homebase, on a vraiment réalisé que c'est réel. Là. C'est vraiment genre une réalité. C'est pas juste des histoires qu'on rencontre.
Ouais.
C'est beaucoup plus commun qu'on pourrait
le penser. Mm-hmm. Je pense que ça nous a aussi permis un peu de comme sortir de notre petite genre bulle. Parce que surtout en classe, même s'ils nous apprennent des cours de théorie puis tout, on est quand même dans une bulle d'apprentissage, de comme, notre petite vie, là, puis tout. Puis là, vraiment, d'entendre les témoignages et tout, ça nous confronte vraiment face à face avec...
La réalité.
Les histoires, puis la réalité, puis... Je pense que ça m'a permis de vraiment réaliser à quel point, genre, j'étais choyée dans ma vie, puis tout.
Donc, prochaine étape, on tourne à Montréal et vous allez faire, vous dites, un rapport, un reportage par rapport à votre expérience?
Comme elle a expliqué déjà, c'est un reportage ou encore et aussi un documentaire. Le reportage, ça toucherait sur notre projet, notre expérience à Yellowknife. Et le documentaire, c'est notre choix, dans le fond. Et nous, on a décidé de choisir de parler de la situation...
Des réalités de vivre comme
dans
un centre d'accueil.
Pour les jeunes. Et on va vraiment toucher sur l'importance de l'environnement dans lequel on grandit mm-hmm. et comment ça pourrait affecter notre futur.
Ça me semble très intéressant. Bienvenue à Yellowknife. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent séjour.
Merci à vous. Merci beaucoup pour l'expérience.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Voir des bisons à l'état sauvage est encore possible un peu partout en Amérique du Nord, dont en Alberta, notamment du côté de la ville de Zama dans le comté de Mackenzie. Plusieurs s'émerveillent d'en croiser à environ 300 mètres de la route. D'ailleurs, près de 600 bisons des plaines vivent aujourd'hui dans le nord-ouest de cette province canadienne. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Son cousin, le bison des bois, figure encore sur la liste des espèces menacées d'extinction. Le bison des plaines, lui, parcourait autrefois librement l'Amérique du Nord. On comptait entre 30 et 70 millions d'individus dans les années 1800, imaginez. Aujourd'hui, grâce à leur réintroduction dans les années 1980, on peut les observer en Alberta, mais aussi en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Manitoba, et aussi dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, que deviennent nos bisons canadiens? Notre journaliste Hélène Lequit en discute avec Natalka Melniki, biologiste de la faune sauvage et résidente de Rivière de la Paix depuis 8 ans.
Au lieu de compter les moutons, on peut compter les bisons. Il y a plusieurs jours, près de la ville de Zama, dans le comté de Mackenzie, un internaute a posté une photo où environ une centaine de bisons marchaient à environ 300 mètres de la route. Un spectacle qui fait plaisir à voir, mais est-ce aussi inhabituel qu'il n'y paraît? On s'est tourné vers Natalka Melniki, biologiste de la vie sauvage. Elle vit et travaille depuis 8 ans à Rivière la Paix. On l'écoute nous en parler.
It's not unusual. This area is often populated by larger groups of wood bison. They came to the area through a reintroduction back in 1983. This was a Canadian Wildlife Service initiative to reintroduce wood bison into four different jurisdictions within Canada. This bison was a joint effort between the DENITA, the Canadian Wildlife Service, and the Alberta government at the time.
De quelques individus, nous sommes passés à plusieurs centaines. Combien y a-t-il de bisons sauvages à présent en Alberta et dans la région? Natalka Melniki nous partage ses statistiques.
That population started from just a few individuals brought up from Elk Island National Park. Since that time, they have expanded quite a bit and grown in population size. We do manage them to a goal of between 400 and 600 individuals is often where we get reports of sightings of larger groups of these wood bison.
Depuis leur réintroduction en 1983, aujourd'hui entre 400 et 600 bisons foulent quotidiennement le sol albertain en partant du parc Elk jusqu'à la zone de la ville de Zama. Le bison sauvage fait de nouveau partie du paysage après avoir été proche de l'extinction. Aujourd'hui, l'Alberta lui a donné le statut d'espèce en voie de disparition en vertu de la loi sur les espèces en danger, de Wildlife Act de l'Alberta. Puisqu'un symbole de la culture et de l'histoire canadienne, il participe aussi à l'écosystème.
Bon, les bisons, vous savez, il y en a en pleine nature, bien sûr, mais aussi, dommage pour eux, sur nos tables. L'élevage du bison est de plus en plus populaire. Les Européens en sont, eux aussi, friands, si bien que l'Association des producteurs de bisons de l'Alberta a le vent en poupe.
Partait à son lieu, à la garde de Dieu, sur de vieux rafiots, passait souvent sous l'eau. Affrontait la mer, à voile et à prière, aux femmes et enfants revenaient en amont.
Le musicien madelino Bertrand de Raspe est un violoneux bien connu des îles de la Madeleine, mais aussi dans toute l'Acadie. Les Acadiens de Chéticamp, Nouvelle-Écosse, et ceux des îles de la Madeleine ont toujours, dit-on, entretenu des liens étroits, et Bertrand de Raspe est de ceux-là. Il y a un homme particulier. Il aime autant se donner à son métier de pêcheur, duquel il vit depuis près de 45 ans, et prendre la mer, respirer l'air du large, que de suivre les airs des musiques qui ont bercé son enfance et sa vie, la mer que l'on retrouve dans son répertoire musical. Bertrand d'Erasme a littéralement grandi entouré des violons de son père et de ceux de plusieurs violoneux des îles de la Madeleine et du Cap-Breton que sa famille côtoyait, parmi eux Winston Scotty Fitzgerald du Cap-Breton et Tijan Carignan du Québec. Bertrand d'Erasme est aujourd'hui devenu une figure de proue du patrimoine musical madelino et acadien. Notre journaliste Daniel Aucoin, basé à Chéticamp, lui a ouvert son studio.
Bertrand d'Erasme, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Bienvenue au Cap-Breton, bienvenue à Chéticamp.
C'est dit que ça fait plaisir de voir les cousins.
Ça fait quand même longtemps que tu n'étais pas venu au Cap-Breton.
Ah, ça fait au moins, je ne vais pas compter les années, mais ça a été long. Au moins une dizaine d'années, certains, je penserais. Parce qu'auparavant, à tous les fins de pêche, je ramenais mon équipage avec moi, puis on s'organisait pour venir au Dorryman pour une journée ou deux.
Bertrand, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette connexion entre les gens des îles de la Madeleine et les gens de Chéticamp. On peut dire que c'est de la famille.
Ah, ça commence, je comprends. Puis surtout, moi, mon petit village, c'est Pointe-aux-Loups. Puis il y a juste la dune c'est la dune qui nous relie avec Fatima. Puis t'es Fatima, Chéticamp, c'est encore plus, là. Mais c'est sûr que ça connecte certains.
Alors, toi, tu es musicien, chanteur, violoneux. La musique, ça a toujours été important dans ta vie?
Oui, ça a toujours été important. De toute façon, mon père était violoneux, puis il faisait la pêche. Ça fait que la musique a eu beaucoup d'importance pour moi, mais la mer aussi. Ça fait que séparé des deux, puis tout ça pour dire que tout ce que j'ai composé, ça a rapport à la mer et aux accents et tout ce que... Si je partais en tournée, je m'ennuyais de la mer, je m'ennuyais des îles, mais j'ai toujours continué quand même à faire de la musique. C'est juste pour moi de la cave, comme on dit.
Tu as commencé à jouer du violon, tu n'étais pas vieux, tu avais 4 ans?
Oui, c'est ça, c'est que mon père était souvent parti dans ce temps-là. Il travaillait comme débardeur quand la pêche était finie. Et puis, quand il arrivait, je m'ennuyais, comme de raison. Ça fait qu'il m'assoyait sur ses genoux, puis il me faisait jouer du violon. Mon père, il s'appelait Arnold. Il avait des violons partout dans la maison. Il avait un violon au sous-sol. Il avait un violon dans son building, à côté de sa bâtisse. Il en avait un au salon, mm-hmm. Puis toujours qu'il jouait. Il pouvait commencer à travailler, puis à un moment donné, on le perdait de vue, puis il était en train de jouer. Puis il écoutait surtout la musique du Cap-Breton.
T'as été un membre fondateur du groupe Suroi, toi?
Oui. Alcide Pinchot, Pierrot Deras, puis moi-même, Bertrand. Ça a débuté dans les années 76, je penserais, là. Puis, c'est ça, on a drivé ça jusqu'à, comme moi, en 92. En 92, ça a changé d'équipage, parce que moi, de toute façon, quand on partait retourner, moi, c'était toujours un problème, parce que je faisais la pêche. Puis te faire remplacer une semaine sur la pêche, là, disant que tu t'en vas en France, c'est correct, là, mais quand tu y vas trop souvent, c'est pas fameux.
C'est vrai que c'est comme au Cap-Breton, aux îles de la Madeleine, il y a beaucoup de musiciens chez vous. Hein?
Ah oui, il y a beaucoup de musiciens. Il y a des musiciens presque dans toutes les maisons. C'est violon, c'est guitare, c'est accordéon. Mon père, il ne vivait que pour la musique du Cap-Breton.
Il y a eu Jerry Harlan, il y a eu Winston, Scotty Fitzgerald et bien d'autres.
Oui, Jerry Harlan... Il y a eu Arthur Muse, mm-hmm. c'est tous des gens qui sont venus à la maison chez nous. Puis, qu'on a passé des grandes journées.
Ah ben oui, ça va soigner au Festival du Roman. Ça se passe à la grande entrée, puis venez tous vous amuser. Mettez vos bottes de rubber, puis embarquez dans vos chars. Ils vont en voir en masse, on va se bourrer si vous voulez. Puis à la fin de la soirée, ils vont en avoir des magadés. Tillet-tallit-lam, ça arrive bien qu'une fois par année. Tillet-tallit-lam.
Parle-nous de tes enregistrements. T'as deux albums?
Ben, le premier album de Suroi. Après ça, il y a eu l'enregistrement avec « Si l'amour prenait racine », une cassette. J'ai fait une autre petite cassette. Ben bon, je l'appelle la cassette grise. C'est pas la maison grise, mais c'est la cassette grise. Et puis, j'ai fait un album avec Vent arrière. Un violon, il n'y a pas tellement longtemps. mais ça s'appelle Mes Racines, je pense que vous l'avez. Mm. Puis le tout dernier, ça a été Pêcheurs de tradition. C'est des compositions qui parlent des timbres marins des îles avec l'accent.
Comment on explique qu'aux îles, vous avez conservé les coutumes, le folklore, les chansons traditionnelles? Est-ce que c'est parce que vous êtes isolé au milieu de l'océan?
Nous autres, nos traditions, on les fait surtout comme l'hiver. Nous autres, on dit que c'est l'hiver, c'est l'âme des îles, en fait, compte. Parce que l'hiver, tu peux pratiquer ta mi-carême, la chandeleur, ici et ça. Puis l'hiver, ben, tout le monde est parti. Pas nécessairement le mauvais monde, mais ce qui arrive, c'est qu'on se réunit plus ensemble. C'est vraiment du monde des îles, tu sais.
C'est dommage qu'on est si loin, Chétiquan et les îles. C'est, on n'est pas loin, mais on est loin.
Oui, c'est ça.
C'est compliqué de se rendre chez
c'est
vous.
C'est compliqué, certain. Puis si le bateau viendrait ici, bien, au petit haut, c'est sûr que l'île du Prince-Édouard qui l'attraperait, là. Mais ça serait mieux pour vous autres économiquement. Mais c'est pas nous autres qui décident. Puis dans l'autre côté, ça reviendrait au point de vue distance quasiment la même. Là, mais ça serait au moins on communiquera ensemble. Puis au partir.
Alors Bertrand Deras, c'est toujours un plaisir de t'accueillir à Chétiquan. Merci d'être venu dans nos studios. Et bravo pour ta musique. On espère qu'on aura la chance de te voir une autre année lorsque la mi-carême sera normale.
Oui, que tout le monde... Il n'y aura pas de caméra.
Merci beaucoup.
On n'aura pas besoin de caméra. Ben, merci beaucoup, puis salutations de Chétiquan, puis on va raconter ça aux grandes visites.
Le Conseil scolaire acadien de la Nouvelle-Écosse est à la recherche de familles pour accueillir des jeunes étudiants internationaux. Étudier à l'étranger est aujourd'hui beaucoup plus facile que cela n'était dans les années 80 ou 90, par exemple, en tout cas à partir du Canada. On le remarque dans nos écoles secondaires, collèges et universités, les étudiants étrangers sont de plus en plus nombreux à poursuivre leur cursus scolaire ici au pays. Et inversement, on peut maintenant passer plusieurs mois, voire plusieurs années à étudier à l'étranger, tout en se faisant créditer les cours qu'on y suit. Pour preuve, en 2019, 250 000 étudiants ont choisi le Canada comme destination d'études, faisant du Canada l'un des plus attractifs auprès des jeunes. C'est ce que rapporte en tout cas l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. L'idée n'est pas étrangère aux écoles francophones du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse, qui est actuellement d'ailleurs à la recherche de familles qui souhaitent accueillir des jeunes de 12 à 19 ans qui viennent étudier dans l'une des 22 écoles francophones du Conseil scolaire acadien. Le Conseil a mis ce programme sur pied il y a quelques années seulement. Il reçoit déjà un accueil très favorable. Pour nous parler du programme d'accueil d'étudiants étrangers, Sébastien Beltran a rencontré Karim Amedjou, le coordonnateur de la diversité culturelle au Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse.
Vraiment, notre objectif, c'est d'aller chercher des élèves francophones de 12 à 19 ans, cette diversité culturelle, mais en même temps, on veut que ces élèves-là soient vraiment fonctionnels au niveau de la langue française, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour les autres écoles des centres scolaires anglophones. C'est vraiment important d'avoir ce désir-là d'accueillir un élève international parce qu'en l'accueillant, on découvre toute une autre culture et il va faire partie de la famille. Donc, il faut le prendre en charge et il faut aussi lui permettre de découvrir aussi à la région puis la Nouvelle-Écosse.
Donc, les élèves qui viennent, on est bien d'accord, hein, ils viennent pour leurs études et aussi pour découvrir un petit peu la culture et un nouveau pays. Ils ne viennent pas travailler.
Non, en fait, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas du tout. Ils sont là pour poursuivre leurs études. On a eu des élèves qui sont venus, qui se sont inscrits en 10 et en 11 et en 12. Ça change un petit peu au niveau de l'intention. Il y en a vraiment qui viennent pour les études parce qu'ils veulent poursuivre leurs études par la suite au Canada. Il y en a qui viennent pour faire le bac international chez nous. Il y en a qui viennent aussi pour vivre cette expérience-là quand même d'une région majoritairement anglophone, mais où le français et la communauté francophone existent aussi, mais pour la découverte culturelle. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important aussi. En ce moment, par exemple, on a un élève qui nous vient de Mexique, donc il est mexicain, mais il est aussi canadien. Et puis lui, c'est vraiment le désir de découvrir un autre système éducatif que celui de son propre, de son pays, qui est le Mexique.
Donc avec l'expérience de ces deux dernières années, même si on a eu la COVID, donc quel retour ou quel sentiment avez-vous pu recueillir de la part des familles ou des élèves qui sont venus?
Que du positif, c'est-à-dire que les élèves, quand ils arrivent au début, ils sont un petit peu, bien évidemment, anxieux, un petit peu inquiets, un petit peu réservés, parce que, mine de rien, ils quittent leur famille, ils quittent leur racine, entre parenthèses. Mais après, ici en Nouvelle-Écosse, on a quand même une force d'accueillir les gens. Il y a quelque chose de presque thérapeutique ici en Nouvelle-Écosse. Les gens sont tellement sympathiques, sont tellement accueillants, sont tellement chaleureux. Donc, c'est que des belles expériences. Après, ce qu'il faut savoir, que parfois aussi, un élève peut arriver, il peut être hébergé par une famille d'accueil, mais pour des raisons de compatibilité, ça peut ne pas fonctionner avec un tel élève aussi. C'est là que nous, on intervient. Donc là aussi, il y a beaucoup de flexibilité. Donc les familles d'accueil, elles sont aussi appuyées. Et c'est là où c'est le travail que je fais aussi avec les familles d'accueil. C'est un retour positif de la part des élèves parce que pour eux, c'est toute une découverte d'être dans des écoles en Nouvelle-Écosse. Ça ne correspond pas du tout au système de leur pays d'origine. Après, pour les familles d'accueil, c'est un voyage. C'est vraiment un voyage et pour les adultes, mais aussi pour leurs enfants aussi, parce que c'est toute une découverte d'avoir quelqu'un qui parle français, mais qui parle d'autres langues, qui nous parle d'autres choses, qui cuisine autre chose. C'est vraiment une belle expérience humaine et culturelle.
Merci Karim d'avoir partagé toutes ces informations.
Merci Sébastien.
Bien voilà, c'est déjà tout pour nous à Point de vue cette semaine. Vous pouvez écouter toutes nos émissions sur le site canada-info.ca, canada-info.ca, les suivre aussi en balado si vous le souhaitez. On remercie nos journalistes Thomas Etier, Sébastien Beltran, Hélène Lequit, Daniel Lecoin et leurs invités, notre coordonnateur en information Stéphane Bénard et bien sûr les artistes qui nous prêtent leur musique, merci. Les équipes radio de l'initiative de journalisme local sont des boulimiques d'information. Ils sont une quinzaine postés dans les provinces et territoires canadiens à fouiller des informations de première main et produisent des douzaines de reportages à chaque semaine que vous pouvez évidemment consulter sur le site de canada-info.ca, canada-info.ca. Suivez-les aussi sur Twitter @CanadaLJI, CanadaLJI. On vous rappelle que cette émission vous est présentée grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire avec la précieuse collaboration de votre radio locale. Ici Boris Chassagne, merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
@CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
frappe dans les bistrots. Cocktail de milliards bien mixeur de prolétaire. Fédération Bordeaux, rassemblement Porto. Sondé à pour Cuba, armée du fascisme froid. Syndical, vital, radio, addition cognac. Trico pour les barjolés, les alcoolos. Ou plus du l'armagnac avant garde au Ricard. Front uni du whisky entre de l'eau de vie. Résistance à une telle qu'on part à Muscadet. Passons armés, barons, canot de la groupe. Mouvement d'action, vin blanc, régiment, camp de nom. Lutte pour être pour l'excès, son château, la fête. N'allez pas, la girafe. Il a bu, le zébu. Il est plein, le caouin. Il est rond, le nanon. Collectif Anisette, armée est une canette. Parti des portures, division Côte rose. Champagne République, un de table, c'est jeté. Communauté rosée, troupe des matons bourrés. Les gens de tous des mieux, permacteurs autonomes. Une internationale, ça qui est extra brutale. Le commando perd nos frappes,